Chapitre 4. Le coup de soleil. Antoinette se trouvait au piano et jouait à sa mère, assise dans un profond fauteuil, un morceau d'opéra autrefois très goûté et qui aujourd'hui est fortement démodé, mais dont la musique, toute simple, reste pleine de charme et facilement appréciable. Madame Alary goûtait avec un grand plaisir et une douce émotion cette musique qu'elle avait entendue autrefois avec son mari aux jours heureux. La mère et la fille attendaient pour le dîner le capitaine, qui ce soir, malgré son exactitude militaire, n'était pas encore là. Le capitaine était parti depuis le matin à la rencontre de son ami qui arrivait d'Algérie. Il était probable que son frère d'armes l'avait retenu plus longtemps qu'il l'espérait. On lui accordait donc le quart d'heure de grâce, en attendant soit son pneumatique qu'il ne pouvait venir, soit lui-même, avec l'excuse de son retard. Et ce quart d'heure, la mère et la fille le passaient en faisant de la musique, ce qui est un moyen comme un autre d'écourter le temps, de cacher l'impatience ou l'inquiétude sous l'évocation des heures agréables. Le temps qu'on perd en attendant quelqu'un qui ne vient pas semble beaucoup moins long au souvenir du temps heureusement passé. Tout à coup, un coup de sonnette retentit. Antoinette cessa de jouer, se leva promptement et dit à sa mère « Voilà probablement le bleu que nous envoie Robert pour nous rassurer. Robert a sa clé, il serait entré sans sonner. » Elle courut gracieusement jusqu'à la porte qu'elle ouvrit avant que la bonne eût quitté sa cuisine pour venir voir qui sonnait. Elle ouvrit la porte et non sans étonnement se trouva en face non pas du petit télégraphiste habituel devant lui tendre le petit bleu, mais d'un élégant gentleman qui, d'une voix émue, lui demanda si le capitaine Alary se trouvait chez lui et s'il pouvait le voir. Surprise elle aussi à la vue de ce visiteur, non sans trouble, elle répondit « Veuillez entrer, monsieur. Mon frère ne peut tarder à venir, nous l'attendons. » Le visiteur fut conduit par la jeune fille dans le salon où se trouvait encore la mère. « Je vous demande pardon, madame, » dit-il, cherchant ses mots, parlant avec embarras, regardant tour à tour la mère et la fille, semblant mal assuré. « Je vous demande pardon, madame, de me présenter chez vous à une heure aussi inopportune, mais j'ai quelque chose de très urgent à dire à Alary, et comme je ne peux remettre cette entrevue, je vous prie de m'excuser. Si je suis accouru, comptant le trouver, certainement à l'heure de son dîner, enfin, madame, pardonnez-moi, pardon. » Madame Alary indiqua au visiteur un fauteuil non loin d'elle et lui dit « Vous êtes tout excusé, monsieur, et j'espère que mon fils ne vous fera pas trop attendre. Croyez-vous, madame, qu'ils doivent rentrer ? Mais certainement. Nous serions sans cela déjà prévenus. Nous l'attendons pour nous mettre à table. » « Vous ne l'avez pas vu depuis tantôt ?»« Non, mais mon fils est allé ce matin au-devant d'un de ses amis du régiment, un de ses compagnons d'Algérie qui arrivait par le train de Marseille. Depuis, nous ne l'avons pas vu. »« Ah, bien, bien. » »« Mais comme mon fils aime ce camarade, cet ami, comme un frère, je lui donne toute latitude, même s'il n'a pas le temps de nous prévenir, ou s'il n'y pense pas, de témoigner à son compagnon toute son affection, tout le bonheur qu'il a de le revoir. » Nous n'avons nullement sujet de nous inquiéter si son ami le garde très tard dans la soirée. Le visiteur hochait la tête, disant « Bien, madame, bien, madame. » Et très gêné, cherchant ses mots, voulant parler et ne trouvant pas exactement la façon d'interpréter ce qu'il voulait dire, il agitait son chapeau dans ses doigts. Il remuait les mains. Il se tournait tantôt vers Antoinette, tantôt vers la mère. Enfin, il se décida à dire, un peu brusquement, « Mais, madame, je suis le capitaine Baudat. » La mère et la fille sursautèrent. « Le capitaine Baudat ? » s'écrièrent-elles. « Vous n'avez donc pas vu Robert ? Robert ne vous a donc pas rencontré à la gare ? » ?»« Je vous demande pardon, madame. Si fait, mademoiselle. J'ai vu en effet, parfaitement vu le capitaine Alary. Mon bon Robert, nous avons passé une partie de la journée ensemble. » Antoinette lui dit, « Je sais que mon frère vous a choisi un appartement dont il se déclarait enchanté. » Il nous en a fait la description et il assurait que vous devriez vous trouver très content de son choix. Il connaissait vos goûts et lui tardait de vous voir occuper ce nouveau logis dans lequel il se promettait d'être aussi consciencieux locataire que vous. » Le capitaine répondit « En effet, mademoiselle, Robert a choisi, selon mes goûts, un appartement très confortable. Très bien. Je me déclare enchanté du choix. Robert me l'a fait visiter. Tout est bien, c'est parfait. » Il était avec moi cet après-midi, chez moi, et nous nous sommes quittés Il est parti, moi je suis resté. Mais quand il a été parti, mon Dieu, comment vous dirais-je, n'est-ce pas? J'étais très embarrassé, très gêné de l'avoir laissé partir. Alors, se tournant vers la mère, il ajouta, « Parce que, madame, vous avez un fils qui est, comme moi, soldat, qui est, comme moi, capitaine, qui à chaque fois, avant moi, un galon, une blessure, une croix, et enfin, comment vous dirais-je, vous allez me comprendre. Parce que nous sommes brusques dans le métier, et à force de vivre avec les Arabes, on prend des mœurs de bédouins. Et puis, dans le désert, le soleil, vous me comprenez, vous tombe sur le crâne, le cerveau bout, il est trop près du képi, ça bouillonne, ça chauffe. Et puis, vous me comprenez, n'est-ce pas, madame? Vous me comprenez, parce que je vous assure qu'il m'est très pénible, excessivement douloureux, d'avoir laissé partir mon camarade Alari. » La vieille mère et la jeune fille écoutaient avec anxiété, et regardait avec un étonnement profond le capitaine Bauda faisant cette déclaration à laquelle, malgré les « vous me comprenez » du capitaine, en réalité, elle ne comprenait rien. Le capitaine insista et reprit « Et parce que j'ai un gros chagrin, parce que vous me voyez l'âme absolument déchirée qu'Alari soit parti, comme ça, parce que lui aussi, il a le képi près du cerveau, nous avons déjeuné ensemble et, ajoutez cela au soleil, le vin de France, des vieilles bouteilles, et le soleil d'Algérie sur le crâne, ça forme un amalgame que, madame, puisque vous avez un fils militaire comme moi, vous devez comprendre. Et je suis accouru précisément pour réparer, mon Dieu, pour faire amende honorable, à cause justement de ce soleil et du déjeuner. » Madame Alari demanda enfin, parvenant à placer un mot dans toutes ces phrases hachées du capitaine. « Mais enfin, monsieur, je vous en prie, vous nous voyez inquiètes, ma fille et moi. Que venez-vous nous apprendre ? Est-il arrivé un accident à Robert ? Un nouveau malheur nous frappe-t-il ? Qu'y a-t-il ? Je vous en prie, dites-le-nous. » Le capitaine Bauda, brusquement, élevant la voix, se laissant aller à sa nature vibrante, dit « Mais non, madame, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas d'accident. Je vous explique comme je peux. Je vous explique qu'il n'y a pas de malheur, mais un coup de soleil entre Alari et moi. Et voilà pourquoi je suis accouru ici, espérant rencontrer Robert. » Et lui dire que je suis un peu fou, que c'est le retour, la joie, le plaisir qui m'ont fait crier comme ça. » Et comme la mère et la fille n'étaient pas encore très au courant de ce qu'il essayait d'expliquer, le capitaine Bauda ajouta « C'est chez moi que ça s'est passé, pour une carte, parce que Robert s'est trompé de carte et que j'ai vu la chose plus terrible qu'en réalité elle n'était, et que je l'avais vue triste, sombre. J'ai voulu le remonter, et au contraire, c'est moi qui me suis emballé. Enfin, ni l'un ni l'autre, nous n'avons bien réfléchi, et je venais maintenant lui dire qu'une fois qu'il a été parti, je me suis dit que s'il n'avait pas raison, moi, j'avais tort. Or, je ne veux pas que plus longtemps demeure dans son esprit la moindre animosité contre moi. Et je ne veux pas qu'un seul nuage puisse ternir notre vieille et sincère amitié, qui a fait de nous, comme vous le disiez tout à l'heure, mademoiselle, non pas seulement deux frères d'armes, mais deux véritables frères. » Madame Alari reprit « « En effet, monsieur, je dois vous dire que Robert nous a toujours parlé de vous dans toutes ses lettres, écrites de là-bas, comme si vous étiez non pas seulement son meilleur ami, mais comme si vraiment je vous avais avec lui pour fils. Je suis très heureuse, monsieur, aujourd'hui, de pouvoir vous dire que cette maison vous est ouverte de tout cœur et que j'espère que vous nous ferez l'amitié de vous considérer ici comme le frère de Robert. » Le capitaine Bauda s'est élevé et alla à Madame Alari. Il lui prit les mains et les serrant dans les siennes, « Merci, madame, je vous remercie de vos bonnes paroles. » Puis, se détournant vivement, il dit « Je vous demande pardon encore, madame, mademoiselle, je n'en peux plus, il faut absolument que mon cœur éclate. » Et pour cacher un gros sanglot qui lui déchirait la poitrine, il porta son mouchoir à sa figure. À ce moment, la porte du salon s'ouvrit et Robert Alari parut. La mère et la fille, qui regardaient avec stupéfaction le capitaine sangloter, s'écrièrent en même temps « Ah, voilà Robert !» Antoinette se leva, courut à son frère et lui dit « Le capitaine Bauda t'attend. » Robert, triste, ému, s'arrêta sur le pas de la porte, regardant son ami. Le capitaine Bauda s'est élevé en entendant prononcer le nom de Robert. Il fit un pas vers le capitaine Alari et lui dit « pas d'explication entre nous. Tu vois que je pleure. Tu dois tout comprendre. » Le capitaine Alary ouvrit ses bras et lui répondit « Je suis content de te voir ici. » Le capitaine Bauda se jeta dans les bras de son ami, l'étreignit cordialement en répétant « Mon bon Robert, mon bon Robert !» Puis il l'entraîna devant Madame Alary, et avec cette franchise, cette ardeur qu'il mettait en toute chose, il dit « Madame, tout à l'heure, j'ai gravement offensé mon ami, mon frère Robert Alary. Je ne pouvais mieux réparer les torts que j'ai eus envers lui qu'en lui demandant devant vous non seulement le pardon de mon acte, que même les coups de soleil d'Algérie n'excusent pas, mais de bien vouloir oublier ce nuage et de croire que je suis pour lui ce que j'ai toujours été, son vieux camarade, prêt à lui donner mon sang, si cela peut lui être agréable, par tous les bédouins du monde. » Les deux amis alors se donnèrent l'assurance qu'ils ne gardaient aucun souvenir de cette aventure. Entre deux, ils se dirent qu'ils sauraient bien s'arranger, quoi qu'il arrivât, afin que cette fameuse carte qui avait servi à Robert pour s'introduire chez le banquier Castanier ne causât aucun ennui à celui dont elle portait le nom. Madame Alary dit alors au capitaine Bauda que, puisqu'il était là et qu'elle le considérait comme un fils, elle le gardait à dîner, comme Robert. Le capitaine Bauda voulut refuser par discrétion, mais Antoinette, lui ayant dit que sa présence ce soir à la maison ferait le plus grand plaisir à son frère et à sa mère, le capitaine Bauda ne refusa plus. Alors, très franchement, rayonnant comme à l'habitude, il redevint le bon, le loyal et le joyeux compagnon de son ami Robert. Il raconta les exploits du capitaine, parla de bédouins, de cavalcades, de randonnées terribles dans le désert, de coups de sabre, de coups de lance échangés, de coups de fusil dans la brousse. Il parla du beau ciel bleu d'Algérie et du soleil qui le matin semble une pierre précieuse, qui à midi est comme un lingot d'or immense en fusion et qui le soir a des allures de forge fantastique. Il évoqua aux yeux émerveillés d'Antoinette cette île large, captivante, unique, du désert, où l'homme se trouve face à face, plus en quelque sorte que sur la mer, avec cette angoissante immensité. Il fut amusant, charmant, et vraiment il mit dans cette maison, où jamais on n'avait ri de si bon cœur, où l'on avait seulement le courage de sourire, où l'on avait peur de parler de bonheur, il mit comme un rayonnement de force, de jeunesse. Il donna l'assurance à ces braves gens, si longtemps courbés sous l'adversité, que la vie réserve quand même des jours heureux à ceux qui la regardent en face et qui marchent contre elle, les yeux clairs et le sourire aux lèvres. Le lendemain, de bonne heure, le capitaine Bauda se présentait chez son ami Alary et venait le prendre sous prétexte de courses à faire, d'achat de bibelots, de linge pour compléter son installation. Il emmena Robert chez lui, et une fois la porte fermée, il lui dit carrément « Mon vieux Robert, il faut que je te dise quelque chose qu'hier je n'ai pu dire devant ta mère et devant ta sœur, parce que les femmes ne comprennent pas toujours le sens de nos paroles, surtout quand nous les prononçons comme nous en avons l'habitude dans les garnisons du Sud. En résumé, voici. Je suis une brute. Je suis un animal. Je suis un bédouin. Je ne vaux pas les quatre fers d'un chacal. Es-tu content maintenant ?» Le capitaine Alary dit alors à son ami « Mon cher, j'avais une mission sacrée à remplir, un devoir pieux à accomplir. Il fallait, ayant appris le futur mariage d'Irma Castanier, que quelqu'un portant le nom d'Alary se présentât chez le banquier Castanier et lui renouvelât certaines choses du passé pour troubler son bonheur et lui rappeler que d'autres souffraient par lui. » Le capitaine Bauda répondit « Mon pauvre ami, je sais, j'ai entendu dire tout cela autrefois. Je connais l'histoire d'Alary et du banquier Castanier. On l'a racontée maintes fois devant moi. Mais j'ignorais que cet Alary était ton père. Je n'ai jamais voulu t'en parler, mais puisque tu m'en parles aujourd'hui, je dois te dire que chez moi, on a toujours considéré que ton père était, non un coupable, mais une malheureuse victime. C'est la vérité. Mon père et le banquier Castanier étaient en relation d'affaires et se voyaient très souvent en amis. Je n'ai pas à rentrer dans les sentiments intimes de mon père sur M. Castanier, mais chez le banquier, on m'a toujours réservé le plus charmant et le plus sympathique accueil. La nouvelle de la mort du banquier et de cette malheureuse Irma m'est parvenue comme je revenais du Sud, et c'est encore sous le coup d'une impression terrible que j'ai entendu ton histoire de carte. Tu comprends maintenant l'exagération de ma surprise, et tu t'expliques ce mouvement d'indignation et même de colère qu'elle suscita en moi. Je comprends. Mais c'est fini, c'est fini. Et demain, j'irai présenter mes hommages à Madame Castanier comme je dois le faire. Si mon nom est prononcé au cours de cette affaire, mon cher ami, tu peux être assuré que le tien ne sera même pas évoqué. Tu n'as donc rien à craindre de ma part, et tu peux compter, pour le cas où ma carte serait entre les mains de la justice, sur un défenseur qui saura trouver une explication plausible à la présence de ce Bristol dans un moment aussi dramatique. Tout ennui te sera épargné. Je te remercie, mon cher ami, et je suis heureux de t'entendre parler, comme tu viens de le faire, de mon père. Le capitaine Alary serra les mains de son ami et lui dit « C'est vrai, mais je crois aujourd'hui que le passé commence à être vengé, et je suis certain que mon père, du haut du ciel des braves gens, doit être content de voir la justice immanente enfin rehausser son nom. Mon cher ami, je crois comme toi à la justice des choses, et je suis persuadé que le banquier Castanier ne goûtait pas le bonheur que l'on attache dans le public aux millions, qu'il n'a pas eu la vie aussi heureuse qu'elle le paraissait, et que la punition pour lui a commencé avec ce que nous pouvons appeler entre nous la longue liste de ses forfaits. Peut-être. De sa femme, n'en parlons pas. C'est une nature vulgaire, pleine d'orgueil, insipide. Je n'ose parler du fils, Charles. C'est un malheureux garçon qui a été maltraité dès l'enfance, mal élevé, qui est devenu un chenapan accompli, il paraît. La fille aînée, Irma, était certes jolie, charmante et gracieuse, mais elle avait hérité des qualités de sa mère, dont je viens de te faire l'énumération. Le capitaine Baudin fit claquer ses doigts et leva la main en l'air d'un geste d'indifférence, puis plus doucement reprit. La nature se complaît aux antithèses. Un père de ce calibre, une mère de cet acabit, finir par un de ces hasards heureux, par procréer, assurément malgré eux, une exquise, une charmante, une idéale, une tous les adjectifs possibles et imaginables de charme, de douceur, de cœur, de beauté, qui est la dernière enfant, Jeanne. À ce nom, le capitaine Alary ne put s'empêcher de tressaillir et de devenir très pâle. Le capitaine Baudin s'aperçut de cela et regarda avec surprise son ami. Puis il reprit « Jeanne est la jeune fille idéale, celle qui fera plus tard la femme divine, celle qui fera goûter à celui qui aura le bonheur d'être aimé par elle toutes les joies, toutes les satisfactions, toutes les félicités que le bon Dieu, dans un moment de générosité, a données au pauvre diable d'homme que nous sommes sur la terre. » Puis il s'arrêta, et comme il ne pouvait tenir longtemps en place, il se mit à marcher dans son fumoir, tout en sifflant un air de cavalerie quelconque et en regardant la sourdine du coin de l'œil, Alary, dont le trouble augmentait au fur et à mesure qu'il parlait, lui, des qualités et du charme de Jeanne Castanier. Cependant, il ne fit rien pour que son ami puisse s'apercevoir qu'il avait remarqué son trouble, et tout d'un coup, prenant son chapeau du bout de sa canne, il le fit tourner en l'air, le reçut sur la tête, le rajusta un peu au-dessous de l'oreille et dit « Maintenant que nous avons parlé de sacripant et d'ange, allons prendre l'air du boulevard. » Et il entraîna son ami, qui semblait presque aussi troublé que naguère, quand il avait eu avec le capitaine Baudin son altercation. De retour chez lui, le capitaine Baudin, pensant à cette scène, se dit « Hé hé, mais je crois que ma carte n'a pas seulement servi à mon brave Robert pour aborder le père d'une façon tragique, mais aussi pour voir d'une façon plus douce la jolie Jeanne. » Il se demanda « Est-ce que par hasard mon gaillard serait amoureux de cette merveille ?» de cette charmante enfant. Alors il s'écria brusquement « Eh, pourquoi pas ? Jeanne et Robert, mais ce serait par ma foi le plus beau, le plus heureux assemblage qui serait possible au monde. » Puis il conclut « Faudra que je m'occupe de ça. Faudra que je tire ça au clair. Et qui sait si, comme disent les Arabes, dans leurs phrases si grandement prophétiques, qui sait si le bonheur de ces deux braves cœurs, de cette jolie fille et de ce bon garçon, n'était pas écrit dans ma carte ?» Le lendemain, le capitaine Baudin se présentait chez Madame Castanier. Un heureux hasard voulut que, précisément à ce moment, Madame Castanier se trouvât entre les mains de son coiffeur. Elle ne crut pas devoir refuser de recevoir le capitaine Baudin, qui arrivait de si loin, et elle envoya, le capitaine étant depuis l'enfance reçu sans façon à la maison, sa jeune fille Jeanne, pour le prier d'attendre qu'elle fût prête elle-même à venir au salon. En voyant entrer la jeune fille, toute rose et si jolie, avec le doux éclat de ses yeux bleus, dans le rayonnement blond de ses cheveux, par un effet réflexe, le capitaine Baudin crut voir, à côté d'elle, apparaître l'image de son ami Robert, et se rappela en ce moment l'émotion éprouvée par son ami au seul nom évoqué de Jeanne. Après les compliments de politesse, profitant de ce qu'il se trouvait seul avec la jeune fille, Le capitaine Baudin, qui avait l'habitude, selon une expression banale mais caractéristique, de ne pas marcher par quatre chemins, carrément, selon son humeur, aborda aussitôt le sujet qui, depuis hier, lui tenait au cœur. Tout en parlant de ses campagnes du Sud, tout à coup il dit à la jeune fille « Mademoiselle, si j'ai le plaisir de vous présenter mes hommages aujourd'hui, c'est un de mes camarades qui a l'honneur, la vaillance, ce qu'il y a de bon au monde, que je le dois. J'ai nommé le capitaine Robert Allary. À ce nom, Jeanne Castanier tressaille. Et si la veille, le capitaine Allary, entendant prononcer le nom de Jeanne Castanier, était devenu soudain très pâle, aujourd'hui, en entendant dire le nom de Robert Allary, Jeanne Castanier, tout à coup, devint excessivement rose. » Le capitaine Baudin, qui regardait la jeune fille du coin de l'œil, vit le trouble et la rougeur et se dit « Allons, allons, je crois que malgré moi ici, j'ai joué un bon tour de cartes. » Alors, pour en avoir le cœur net, il se mit à faire l'éloge du capitaine, raconta ses exploits, ses actes de bravoure et les folles randonnées faites avec lui au désert, aux frontières du Maroc, dans les oasis où, jusqu'à présent, aucun Français n'était encore entré. Jeanne écoutait, heureuse, charmée, une douce lueur déjà dans ses yeux, un sourire de bonheur sur les lèvres. Elle écoutait, ravie, comme lorsqu'on entend parler de l'être le plus cher, et les paroles vibrantes, tonitruantes du capitaine Baudin chantaient en elle comme une romance du bien-aimé. Tout à coup, elle s'écria « Mais je connais le capitaine Allary, vraiment ? Alors vous savez que ce que je viens de vous dire de lui est encore au-dessous de la vérité. Il n'y a pas seulement qu'en Afrique où il ait accompli des exploits, mais ici, à Paris. À Paris. Est-ce qu'il aurait encore sabré quelques campements de bédouins ? Elle ne m'étonnerait pas, capable de tout. » La jeune fille partit d'un éclat de rire perlé et dit « Non, il n'a rien sabré. Il n'a tué ni blessé personne, au contraire. » « Ah, au contraire ? » ?»« Oui, il a aidé une pauvre invalide à regagner sa voiture. » « Il a fait le brancardier. » « Parfaitement. Et cet invalide, c'était moi. »« Vous ?» s'écria le capitaine. « Comment cela ?» À son tour, Jeanne raconta la scène du cimetière du Père Lachaise. Elle dit au capitaine comment, s'étant foulé le pied, par le plus grand des hasards, comme elle ne pouvait marcher et qu'elle se désespérait, qu'elle souffrait beaucoup, un jeune homme tout à fait obligeant, très distingué, s'était trouvé là, qui lui avait offert son bras, et l'avait accompagnée très galamment, très doucement, jusqu'à sa voiture. Et ajouta-t-elle, « Vraiment, quand je me suis appuyée au bras de ce cavalier tombé du ciel, pour ainsi dire, je n'ai plus senti aucune souffrance à mon pied, j'étais comme guérie. N'est-ce pas que c'est curieux ?»« je comprends. Et puis ?» Et puis, une fois en voiture, maman l'a remerciée de son obligeance, de sa gracieuseté. Moi aussi, je l'ai remerciée. Et voilà que, comme nous partions, un monsieur, grand, rasé, que nous connaissons, M. Martin Numa, un magistrat, je crois, s'est approché de nous. Il avait vu que je m'étais foulé le pied et il arrivait prendre de mes nouvelles. C'est lui qui nous a dit que ce jeune homme était un des plus glorieux officiers de l'armée française, une des gloires du Maroc, et il nous nomma le capitaine Robert Allary. Ah, c'est extraordinaire, c'est merveilleux. Comme les rencontres se font tout de même dans l'existence. « Voilà que je vous parle d'un héros, et il accomplit avec vous un de ses exploits, sinon le plus dangereux et le plus brillant, du moins le plus providentiel. » Jeanne ajouta, « C'est étonnant, en effet. »« Depuis, vous n'avez pas revu, mon ami Robert ?»« Non, nous ne l'avons plus revu, et même, lorsque la suite de cela, j'ai voulu parler de mon sauveur, maman m'a imposé immédiatement silence, je ne sais pourquoi, mais elle ne veut pas qu'on prononce ici le nom du capitaine Allary. » »« C'est fâcheux. » Cependant, j'aurais été bien contente de pouvoir dire au capitaine Allary que je le remercie bien de son intervention, et de lui faire savoir que, depuis, j'étais tout à fait guérie. Mais je n'ai pu le faire. Je suis donc très heureuse qu'il soit votre ami, car vous pourrez, n'est-ce pas, lui dire de ma part que je le remercie bien de s'être trouvé là, à ce moment. Je me charge de cette mission. Vous lui direz combien je suis, non seulement heureuse, mais fière, d'avoir été reconduite jusqu'à la voiture par un héros aussi célèbre, aussi glorieux et aussi obligeant que lui. » Le capitaine Baudin promit de s'acquitter de cette commission agréable qui causerait certainement grand plaisir à son ami. À ce moment, la porte s'ouvrit, Madame Castanier parut. Vivement, Jeanne posa sa petite main sur le bras du capitaine Baudin et lui dit « Chut, voilà maman, ne disons plus un mot de tout cela, elle ne veut pas entendre parler de M. Allary. » Le capitaine savait désormais à quoi s'en tenir. Quand Madame Castanier fit son entrée dans le salon, majestueusement, d'une allure solennelle, et qu'elle tendit au jeune officier une main chargée de bagues, le capitaine, renseigné, dut se borner à présenter simplement à la veuve du banquier ses hommages, à parler de choses indifférentes, vaguement de ses campagnes d'Afrique, qui n'intéressaient pas du tout Madame Castanier, de son voyage, de ses fatigues. Mais il y eut désormais entre lui et cette exquise Jeanne comme un petit complot qui lui plaisait grandement. Il se disait et se répétait « Mes 1 000 000 000 de bédouins, je vais les marier, moi, ces deux enfants. Cela me donnera un double plaisir, parce que cela fera d'abord le bonheur de ces deux êtres, si bien fait pour s'aimer et pour être heureux ensemble, et que cela fera extrêmement enrager Madame Castanier, qui ne veut pas entendre prononcer devant elle le nom d'Alary. » Mais réfléchissant à cela, il se dit « Mais sapristi, c'est que ça me touche aussi, moi, cet amour. J'ai l'habitude de suivre Robert à peu de distance, pour les galons, les coups de sabre, la croix, le voyage et tout le reste. S'il est amoureux, lui, maintenant, il va falloir précisément que dans peu de temps je sois amoureux à mon tour. » Il pensait encore à ça le lendemain et il se disait « Oui, si Robert est amoureux, il va falloir que moi aussi je sois amoureux. » Et comme il se disait cela, presque inconsciemment, sans s'être douté du chemin parcouru, de l'escalier monté, il sonnait à la porte de Madame Alary. Et ce fut Antoinette qui vint lui ouvrir.